Monseigneur Abraham Comé, vous êtes évêque du diocèse de Bafang. Nous sommes au Cameroun et en même temps président de la conférence nationale de votre pays, le Cameroun. Ces jours-ci se déroule à Rome, le synode spécial des évêques sur l'Amazonie. D'abord, votre mot sur ce synode, Monseigneur.
Je pense que c'est une très bonne initiative d'attirer l'attention du monde entier sur ce qu'on appelle le thème consacré sur notre maison commune. Mais je pense aussi que cette maison commune, il faut l'envisager en intégrant le bassin du Congo et pas seulement l'Amazonie, parce que le bassin du Congo, selon les propos même du pape, c'est le deuxième poumon du monde. Et nous pensons qu'on ne peut pas efficacement résoudre le problème de la gestion de l'environnement en occultant, n'est-ce pas, ce bassin du Congo. Donc nous sommes venus à Rome, donc, dans le cadre de ce synode, pour attirer l'attention du monde entier sur cette réalité importante qu'est le bassin du Congo. Et nous voulons que le monde sache que, de même qu'on a le REPAM qui s'occupe de l'Amazonie, de même, en Afrique, nous avons le REBAC, qui est un réseau ecclésial qui voudrait s'organiser pour être une réponse de l'Église face à la gestion ou à la préservation, n'est-ce pas, de ce bassin du Congo, à travers lequel l'Église voudrait montrer sa solidarité pour l'ensemble de l'humanité.
Alors abordons maintenant ce point du réseau ecclésial de la forêt du bassin du Congo, justement, pour faire connaître aussi au monde qu'il y a le même problème qui se pose en Amazonie, qui se pose aussi en Afrique, et spécialement dans la forêt du bassin du Congo. Quand on parle des problèmes écologiques, spécialement dans votre pays, le Cameroun, est-ce qu'on peut parler aussi d'exploitation abusive, par exemple, des forêts?
Bien sûr, c'est évident. On n'a qu'à voir le nombre de camions qui portent les billes de bois. Ça vous renverse. C'est énorme. Et c'est un indicateur clair, n'est-ce pas, que cette forêt est vraiment décimée. C'est le mot qu'il faut utiliser. Elle est décimée, généralement pas des étrangers, mais aussi par quelques nationaux. Elle est décimée au profit de ces quelques personnes. Elle produit des richesses pour ces personnes et laisse pour les populations autochtones une misère inacceptable, une misère face à laquelle il faut se révolter. Sans dire que ces grumiers, ces camions qui portent ces billes de bois, abîment ce qui reste de route dans ces régions-là. C'est-à-dire que les populations autochtones perdent, n'est-ce pas, à tout point de vue. Donc il y a un vrai problème écologique, la déforestation, mais il faut conjuguer avec ça ceux qui viennent remuer la terre à la recherche, n'est-ce pas, des minéraux qui polluent les eaux, qui mettent les populations autochtones en danger, les escarpements, les éboulements, ainsi de suite, lorsque ces populations ne sont pas tout simplement amenées d'une façon ou d'une autre à se déplacer parce qu'elles ne se retrouvent plus dans ce lieu désormais galvaudé.
Mais certaines sociétés disent quand même qu'ils donnent du travail à la population locale. Ce n'est pas vrai?
Il faut relativiser. Oui, il y a quelques personnes, les autochtones, qui travaillent dans ces structures-là. Mais déjà, il faut questionner leur salaire. C'est minable. Puisque c'est de l'exploitation. C'est de l'exploitation et c'est à ce niveau que je pense que nos États doivent être plus regardants. D'abord, pour préserver, n'est-ce pas, cette forêt-là, exiger que ceux qui coupent les arbres puissent replanter pour les générations à venir. Mais exiger aussi un certain quota, que ce ne soit pas laissé, n'est-ce pas, à l'arbitraire de ceux qui exploitent. C'est un quota d'utilisation des populations locales, mais surtout un salaire conséquent. S'il y a une telle ruée, n'est-ce pas, sur le bois, sur les minéraux, cela veut dire que ça rapporte. Ben, il faut bien que les populations locales qui y travaillent puissent, n'est-ce pas, dignement gagner leur vie. Et il faut que, non seulement qu'il y ait ce quota, mais que les richesses qui sont produites puissent être profitables aussi, n'est-ce pas, à ces sociétés, qu'il y ait de bonnes routes, qu'il y ait des écoles, qu'il y ait des dispensaires, en tout cas que l'aspect social soit intégré dans l'exploitation de ces forêts-là.
Mais quelque part, il n'y a pas la responsabilité plutôt de l'État qui donne des contrats ou des licences à ces sociétés pour l'exploitation, qui ne négocie pas, ou bien ces sociétés payent ce qu'ils doivent payer, mais peut-être c'est l'État qui ne fait pas parvenir les bénéfices à la population.
C'est possible, je n'ai pas d'éléments objectifs pour pouvoir me prononcer sur la question, mais ce qui est sûr, c'est que l'État est quand même responsable, n'est-ce pas, de la gestion de la cité, et quelles que soient les causes, il sera toujours pointé du doigt, parce que c'est à lui, n'est-ce pas, de veiller soit pour que ces quotas soient effectivement versés, ou alors que ces quotas servent, n'est-ce pas, aussi à la population locale. Je me contente de faire le constat que ces populations, n'est-ce pas, doivent affronter la misère au quotidien. Donc il y a quelque part quelque chose qui ne tourne pas rond.
Cette exploitation abusive, si on peut appeler ça comme ça, des forêts, est-ce que quelque part ça influence aussi la pastorale, la manière de travailler de l'Église?
Bien sûr. D'abord, il faut faire le constat que si on est au service du Créateur, forcément, on doit aussi être au service de la création. Donc, la première blessure que nous recevons, c'est de voir qu'il y a des personnes qui offensent le Créateur à travers la manière par laquelle ils exploitent la créature. Et dans le contexte de notre interview, n'est-ce pas, la forêt, les eaux, n'est-ce pas, et les animaux qui y sont. Donc il y a une grosse préoccupation déjà sur le plan de l'évangélisation. On sent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et qui nous appelle à nous mobiliser. Mais la pastorale, c'est aussi ces autochtones qui parfois, à cause des routes, sont malmenées, n'est-ce pas, par ces gangsters, passez-moi le terme, peuvent passer beaucoup de temps sans voir le prêtre, parce qu'il devient très difficile d'y aller, parfois il faut y aller à pied.
Donc les moyens de communication sont difficiles.
Les moyens de communication sont difficiles, parfois on n'a pas le réseau téléphonique, parce qu'on est au fond de la forêt, il faut affronter plusieurs heures pour y aller, les véhicules ne peuvent pas circuler aisément, donc c'est aussi un problème pastoral. Et comme dans la plupart des cas, ces populations sont abandonnées par et les sociétés qui exploitent et parfois par l'État, bah, il faut bien que l'Église se mobilise pour que les sœurs religieuses, j'entends, puissent y aller pour soigner, pour éduquer. C'est le travail que l'Église essaye de faire. Donc il y a un problème de sensibilisation. Avec le REBAC, nous nous sommes rendus compte qu'il faut aiguiser la conscience, surtout des jeunes.
Mais justement, j'arrive à ça, comme oui. Peut-être un mot de la fin aussi, que là, justement, le travail du réseau ecclésial de la forêt du bassin du Congo, REBAC, devant cette situation de déforestation et de l'exploitation de la forêt du bassin du Congo.
Donc voilà, déjà, comme réseau, nous sommes plus forts, parce qu'il ne s'agira plus seulement du Cameroun, il s'agira d'autres pays. Nous pouvons, de façon plus efficace, faire entendre notre voix. Mais pour parler du Cameroun, il y a cette nécessité que nous avons perçue, n'est-ce pas, de sensibiliser dans nos écoles. Nous avons mis sur pied un document, n'est-ce pas, en lien avec le civisme. Et dans ce document, nous avons une grande plage qui parle de l'environnement, où nous intéressons les jeunes déjà tout petits, à savoir que la maison commune, ce n'est pas un détail. Ça fait partie de nous. Si elle est en danger, nous sommes en danger avec. Si elle meurt, nous mourrons avec. Donc nous le faisons. Mais nous avons aussi des structures particulières. Par exemple, nous avons le CAVT qui va sur le terrain inquiéter ces structures qui travaillent de façon abusive, qui s'assurent, n'est-ce pas, que les riverains, les autochtones, n'est-ce pas, leurs droits sont respectés, qu'il y a des écoles, ainsi de suite. Nous avons une autre structure qui s'occupe, n'est-ce pas, des industries extractives. Où là aussi, nous veillons, n'est-ce pas, à ce que les règles soient respectées. Mais je dois vous dire que c'est très difficile, parce que parfois, ces sociétés sont couvertes, elles sont protégées, et nous nous sentons comme impuissants, n'est-ce pas, pour les inquiéter. Mais au moins, lorsque nous avons des éléments, nous pouvons faire un lobby, nous pouvons attirer l'attention des populations et même du monde. Aujourd'hui, on peut le faire, grâce aux médias. N'est-ce pas, sur les aberrations qui se passent sur le terrain. C'est ce que nous essayons de faire modestement.
Et voilà, un petit mot de la fin pour conclure.
Je souhaite que ce synode soit une grande réussite, parce que de fait, on perçoit bien que le monde a besoin d'être bousculé sur le plan de l'écologie et l'environnement. Et je souhaite aussi que, ne serait-ce que notre passage dans ce studio, attire l'attention de ce que, en parlant de l'environnement, qu'on sache que le bassin du Congo, ce n'est pas seulement une affaire de l'Afrique. L'intérêt du monde est engagé. Il faut que le monde ouvre les yeux sur le bassin du Congo, sinon les conséquences seront extrêmement graves.